Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Dominique Vallière et Yasmine Abdel-Fadel.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour.
Grosse semaine politique en vue. Aujourd'hui, on va garder un œil sur le référendum en Alberta, sur la péréquation. Mais ce qui va vraiment retenir l'attention, c'est le discours d'ouverture. Normalement, on dirait discours du trône, mais on est à Québec. C'est un discours d'ouverture du premier ministre François Legault.
Oui, gros discours attendu. Le premier ministre qui a prorogé la Chambre pour pouvoir partir sur de nouvelles priorités et pouvoir finalement mieux contrôler l'agenda non seulement politique, mais législatif aussi à l'Assemblée nationale. Donc, à quoi s'attendre? C'est le premier ministre qui va se lever demain pour lire un long discours où il va mettre en exergue ses priorités pour la dernière année de son mandat, rappelant qu'on est en un an des élections, et pour pouvoir finalement, on sait que la pandémie est venue jouer des tours à François Legault, puis à ce qu'il considérait être ses priorités, ce qu'il voulait mettre en pratique. Ben là, c'est sa dernière tentative de pouvoir reprendre le contrôle. Et on va voir qu'il va faire des annonces qui vont être très importantes dès demain.
Dominique.
Première chose à regarder avant même que le premier ministre ait ouvert la bouche, Philippe Vincent, c'est qui va être assis au Salon Bleu. Parce que les ministres dont les dossiers ne feront pas partie ou pas beaucoup partie de ce discours-là ne seront pas au Salon Bleu. Évidemment, c'est pas tous les élus qui peuvent y être dû à la COVID, là. Donc, il y a une soixantaine d'élus qui sont là sur 125. Puis, c'est la façon de discriminer, dans le fond, la liste d'invitations qui a été choisie. C'est-à-dire que si, donc, le PM va parler longuement de toi, tu vas être assis là. Puis, s'il parlera pas longuement, tu seras pas assis. Donc, à surveiller les gens qui vont faire leur entrée au Salon Bleu avec M. Legault demain, ça va donner une bonne indication. Mais sinon, évidemment qu'on a juste à regarder les médias ces derniers jours, ces dernières semaines pour voir ce qui va être dedans. Il est impensable qu'on parle pas de santé puis qu'on parle pas de réforme en santé. Le ministre Dubé a annoncé ses couleurs. Il avait parlé d'un projet de loi omnibus. Même chose avec les services de garde. Même chose avec l'environnement. Le premier ministre a annoncé qu'il allait aller à Glasgow pour participer à la COP26. Donc, évidemment que ça va être des sujets. Puis c'est un peu drôle, hein. Puis je comprends la volonté de la part du gouvernement de replacer le débat parce que il y a comme plus de catégorie qui tient. La CAQ, qui est normalement un parti de centre-droit, a probablement plus dépensé pour des programmes sociaux que la majorité des gouvernements de gauche des dernières années. Fait qu'il faut comme ramener un peu là la grille pour dire voici où est-ce qu'on est, voici comment on voit les choses, puis voici jusqu'où on veut se rendre d'ici un an, puis après ça, ben d'ici 4-5 ans.
Mais le changement de discours va aussi se faire en ramenant sur le sujet l'économie. Tu sais, avec le retour de Fitzgibbon qui a probablement planché sur des plans de relance économique qui vont devoir être annoncés. Moi, je m'attends à voir Pierre Fitzgibbon très proche du premier ministre demain. Je m'attends à voir Jean-François Roberge très proche parce que l'éducation, on se rappelle, François Legault en a fait sa principale priorité puis a même demandé à ce qu'on l'évalue sur sa performance dans le milieu de l'éducation. Donc, ces deux sujets-là qu'on a un petit peu mis de côté durant la dernière année, durant les derniers 18 mois, pour évidemment, la pandémie oblige, on parlait de santé, de vaccination, puis de tests et tous ces beaux sujets qui ont occupé le terrain durant les derniers 20 mois à peu près. L'économie va reprendre du poil de la bête, les nouveaux secteurs économiques que l'on va vouloir occuper, que ce soit l'énergie. Évidemment, il y a eu des bons coups en matière d'environnement et d'énergie, Hydro-Québec, avec le contrat qui a été signé. C'est le ton que le premier ministre va vouloir donner. Ce sont ces réalisations qu'il va vouloir mettre en avant-plan puis dire qu'on va continuer là-dessus. Je sais pas à quel point il va parler de santé demain parce que il y a personne qui est inquiet que Christian Dubé va livrer la marchandise. Par contre, il y a beaucoup de Québécois qui sont inquiets pour l'éducation, pour l'économie. Comment on va se relever de ces derniers 20 mois, on n'en a pas assez parlé. Maintenant, c'est ça que le premier ministre va nous dire.
Ouais, mais en même temps, Christian Dubé, on n'est pas inquiet qu'il travaille là-dessus, mais on voit que le système, le paquebot est vraiment difficile à tourner. On l'a vu avec la vaccination obligatoire, il l'a fait, mais il n'a pas été capable de se rendre jusqu'au bout. Ça, c'est un gros enjeu avec la santé aussi, là.
Ben c'est sûr qu'on s'attend pas. Quand on dit Christian Dubé, on n'a pas d'inquiétude à ce qu'il livre la marchandise. C'est dans le sens que, puis on l'a vu encore dans les sondages ce matin concernant la confiance puis l'appréciation que les Québécois ont des différents ministres, c'est qu'il jouit d'un certain capital de sympathie de la population. Il y a une confiance que la population a déjà accordée à Christian Dubé, un bénéfice du doute. Le premier ministre n'a pas à convaincre la population qu'il y a quelqu'un à bord, un capitaine à bord du ministère de la Santé. Par contre, il y a besoin de le faire pour l'éducation.
Vraiment. Dominique?
Puis Yasmine touche un point qui est intéressant ici. C'est beau le discours de demain, ça va placer les choses, mais le mini-budget, la mise à jour économique de novembre, là, c'est là qu'on va voir en argent sonnant et trébuchant les priorités gouvernementales, parce qu'il y a une différence entre dire « j'entends faire de X sujet une priorité pour la prochaine année », mais si après ça, il y a zéro dollar, on sait que ce n'était que des mots. Alors, il y a ça aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup d'indications qui vont être données demain, mais il faut garder la mise à jour économique, l'un ne va pas sans l'autre.
Puis à quel point vous pensez que ça va être un discours pour la prochaine année? Ça va être un discours un peu en deux temps. La prochaine année, on s'en va là, puis après ça, il va y avoir une campagne électorale. Donc, si vous voulez qu'on mette en œuvre des projets plus ambitieux, là, pensez au système de garderie, par exemple, l'éducation, la santé, ça se fera pas en un an, là, tout ça. Donc, à quel point il va y avoir beaucoup aussi de perspectives en vue de la prochaine campagne électorale?
Ben, François Legault a besoin, dans n'importe quelle gestion de changement, on a besoin de ce qu'on appelle des quick wins en début de parcours pour pouvoir démontrer que le changement que l'on veut mener, il est rentable à long terme. Même chose s'applique en politique. François Legault a besoin de démontrer que sa vision, celle qu'il proposera aux Québécois l'année prochaine, est déjà en marche. Elle donne déjà des résultats. Puis si vous voulez que ces résultats continuent de faire, finalement, de continuer d'être la règle, ben il va falloir me maintenir au pouvoir. Je pense pas qu'il va avoir un discours partisan demain, mais clairement un discours préélectoral sans être nécessairement partisan.
Dominique?
Ouais. Partisan, non, mais Philippe-Vincent posait la question, c'est y répondre. Est-ce que tu es le premier ministre en exercice, tu as la possibilité de faire un discours solennel au Salon Bleu avec des notes alors que tout le monde est assis et il t'écoute? Est-ce que tu l'utilises pour donc dérouler ta vision des prochaines années ou pas? C'est assez clair que oui, là. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y ait des clins d'œil ou ce qu'il y ait des sous-entendus, mais je pense qu'un discours qui serait trop ouvertement partisan serait mal reçu.
Parlons de Justin Trudeau, parce que lui, son discours du trône, va falloir attendre encore un mois. Là. Il a dit jusqu'au 22 novembre. Puis là, dans le Globe and Mail ce matin, on a un peu compilé le nombre de jours que le gouvernement Trudeau et que les députés ont passé à l'intérieur de la Chambre des communes. Bon, il y a eu la pandémie, là, vous allez dire, au cours des deux dernières années, mais on voyait quand même une tendance à la baisse du nombre de jours passés à l'intérieur de la Chambre des communes. L'opposition dit on essaie de se libéré de cette reddition de compte. Avez-vous l'impression que Justin Trudeau et ses députés aiment ça gérer, aiment ça être à la Chambre des communes, Dominique?
Ben oui, je veux dire, ce qu'on dit, c'est que c'est descendu à 76 jours cette année. C'est vrai que c'est moins. En même temps, si tu compares avec Québec, Québec siège 81 ou 82 jours par année. Donc, la différence étant qu'à Ottawa, on siège 4 jours par semaine, mais moins 5. De semaines. Alors, 5 jours, pardon. Et à Québec, c'est 3. Donc, évidemment qu'il y a plus de temps en circonscription. Ceci étant, on est à peu près là, dans la normalité quand on compare avec notre grille ici. Est-ce qu'il y en a moins qu'il y en avait? Bien sûr. Le Parlement hybride a permis de répondre à quelques questions en pandémie. Je pense pas que c'est une formule qui va être utilisée trop longtemps après. Quoi qu'on le sait pas avec les députés conservateurs qui refusent de dire s'ils sont vaccinés ou pas, mais bref.
Hey, ça serait drôle quand même de voir 330 députés en chambre et 7-8 conservateurs sur leur écran. On va se demander pourquoi ils sont là.
On peut pas empêcher un député de siéger. Alors, à partir du moment où est-ce qu'un député veut pas rentrer en chambre parce qu'il est pas vacciné, il doit pouvoir avoir une alternative. Fait que ça, évidemment, sauf que, bref, est-ce que c'est une érosion de la démocratie? Tous les partis d'opposition vont vous dire oui. Moi, je trouve que c'est à peu près standard par rapport à ce qui se passe dans les législatures provinciales.
Yasmine?
Mais ta question, Philippe-Vincent, c'est de dire, est-ce que les libéraux aiment ça gérer? Je pense que oui, parce qu'ils n'ont pas l'impression de devoir gérer en étant à la Chambre des communes. Ils peuvent gérer de leur bureau. Tu sais,
c'est rendre des comptes.
Rendre des comptes, c'est différent. Rendre des comptes, ils sentent pas le besoin d'être en chambre plus que ça. Ça démontre beaucoup que ça, pour moi, ça représente toute la faiblesse des oppositions. Parce que si les oppositions étaient très vocales, très présentes en chambre, très actives, ils sentiraient le besoin d'être sur ce terrain-là. Or, les oppositions, de par leur faiblesse, laissent le terrain finalement libre au gouvernement Trudeau, qui préfèrent être dans leur bureau ou dans leur ministère plutôt que dans leur siège à la Chambre des communes. Puis le même article du Globe and Mail disait que le premier ministre n'a jamais senti d'aller faire des discours à la Chambre des communes. Il est plutôt préféré donner des points de presse en avant de chez lui durant toute la pandémie, ben c'est encore là le témoin finalement de la faiblesse des oppositions. Il n'y a pas besoin de leur parler. Il veut parler directement à la population.
Mais c'est le fait qu'on dise, on repousse. Vas-y, Dominique.
Ben non, mais j'allais dire, préfères-tu, toi, comme journaliste, Philippe Vincent, un premier ministre qui est en chambre et qui donne pas de point de presse, comme Stephen Harper, ou un premier ministre qui est moins en chambre, mais qui est un peu plus disponible, comme M. Trudeau? Ultimement, l'objectif, c'est que les questions soient posées, que ce soit par les élus, évidemment, sont payés pour ça, ou par les journalistes, qui, évidemment, sont payés pour ça, et que les citoyens aient les réponses. Le but, c'est
ouais,
ça.
Là, dans les deux cas, souvent, il n'y a pas de réponse.
Oui, mais peu importe les questions. Mais là, que préfères-tu? Moi, j'ai pas l'impression, pour l'instant, qu'il y a de grands débats qui ont pas pu se faire publiquement ou à l'intérieur de la Chambre des communes parce qu'il y avait moins de jours où est-ce qu'il siégeait. Mais maintenant, est-ce que la population peut leur en tenir rigueur ultimement? Oui.
Dominique, par contre, je pense que c'est une erreur de la part du gouvernement Trudeau de repousser la rentrée parlementaire au 22 novembre. 22 novembre, là, c'est dans plus d'un mois. Le premier ministre nous disait qu'il y avait urgence dans la demeure quand il a déclenché les élections, qu'il avait besoin finalement d'avoir une chambre de commune qui fonctionne, un parlement qui fonctionne, puis il appelle pas le parlement. Pourquoi? Pourquoi avoir déclenché les élections? Il confirme finalement tout ce qui lui a été reproché durant la campagne électorale, qu'il n'avait pas de raison de déclencher les élections, puisqu'il n'y a pas d'urgence à rappeler les députés pour venir travailler.
Dominique,
je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord parce que tu sais, si je dis il y a une urgence, il faut que je refasse ma salle de bain parce que ça coule. Par ailleurs, on peut faire ça dans 2 mois et demi. La définition d'urgence est où? C'est clair, là. Donc Monsieur Trudeau a joué parfaitement dans le rôle que les oppositions avaient défini pour lui. Est-ce que ça va lui faire mal à court ou à moyen terme? Je pense que oui, parce que les gens comprennent bien qu'on a besoin d'avoir un parlement pour renouveler les mesures COVID à passer un certain point. Là. Le prochain renouvellement peut se faire par le cabinet, mais sinon on a besoin d'avoir des députés qui siègent.
Ouais, mais techniquement, c'est jusqu'au 20 novembre. Là, c'est jusqu'au 23 octobre. On pourrait les repousser jusqu'au 20 novembre. On retourne en chambre le 22 novembre. Donc techniquement, il pourrait y avoir 2-3 jours où il se passe rien. Là.
Oui, ben écoute, est-ce que ça sera dommageable pour la PCU, la PCRE ou autre? Je pense que M. Trudeau va se poser la question, puis s'il se rend compte que oui, peut-être que, oups, il y aura des députés plus rapidement que prévu à Ottawa.
Un dernier mot là-dessus, Yasmine?
Ben, j'ai hâte de savoir le discours du trône du premier ministre, puis quelles vont être ses priorités post-élection, post-pandémique, avec un nouveau cabinet, puisqu'il va nommer son cabinet le 25 octobre. Veut-il leur laisser un mois pour qu'ils puissent apprendre par cœur leur cahier de briefing puis qu'ils viennent préparer le 22 novembre? J'ose espérer qu'ils vont être prêts à répondre aux questions après tout ce temps-là.
Aïe, 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 aïe.
Amen.
On va voir ça. Salut à vous deux, merci beaucoup. C'est le 26 octobre, là. Mettez ça à vos calendriers, mardi prochain pour le cabinet. Yasmine, Dominique, salut.
Bye-bye.